Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Sinon, vous nous rejoignez seulement, bonjour à tous, soyez les bienvenus. On fait le tour de la question, deuxième heure d'émission, deuxième sujet en pleine semaine de sensibilisation à la dyslexie, opération lancée par la Fédération des orthophonistes. C'est l'occasion pour nous de parler de ces troubles du langage et de l'apprentissage qui concernent 8% d'enfants à peu près. Avec plusieurs questions à la une, quel rôle du cerveau dans ces troubles? Pourquoi la parole est-elle affectée? En l'occurrence, le rapport entre parole, apprentissage et cerveau, ce matin, nous réunit avec beaucoup de questions, j'imagine. Si vous êtes parent d'enfants dyslexiques, n'hésitez pas à réagir. Nos invités sont là pour vous éclairer. On vous donne la parole, Julie.
Au 39-21, vous nous appelez.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités pour nous parler d'abord de cette semaine de sensibilisation. Bonjour Marie-Christelle Éloin.
Bonjour Wendy.
Vous êtes orthophoniste et membre actif de la Fédération nationale des orthophonistes et donc vous avez ouvert lundi le colloque suivant pour lancer cette semaine de sensibilisation à la dyslexie. La dyslexie, vraie ou fausse épidémie? Alors si vous avez donné ce titre-là un peu étonnant, c'est qu'on a de plus en plus de cas sous les yeux et vous en l'occurrence orthophoniste?
Alors si on a donné ce titre, c'est parce que certains parfois disent... dans certaines institutions ou sur certains médias qu'il y aurait une épidémie de dyslexie ou qu'il y aurait des faux dyslexiques. Notre fédération et l'ensemble des orthophonistes a voulu s'inscrire en faux par rapport à cela. Il n'y a pas de faux dyslexiques, il y a des enfants qui présentent des dyslexies vraies et il y a aussi d'autres enfants qui présentent des retards dans l'apprentissage de la lecture mais qui ne sont pas pathologiques. Donc on tenait à bien poser ce cadre. Et puis une épidémie, eh bien, je vais commencer peut-être par y répondre tout de suite, il n'y a pas d'épidémie de dyslexie. Les chiffres de prévalence sont relativement stables depuis déjà longtemps, que ça soit en France, mais aussi dans le monde. Les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, avec des variations de 3 à 8% selon les études, mais il n'y a pas une épidémie soudaine de dyslexie qui serait provoquée par quelque chose. Et puis, ce n'est pas contagieux.
Simplement, on en parle plus. Et c'est bien d'en parler. Sarah de Robien, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avec nous, vous êtes maman d'un enfant dyslexique qui a quel âge aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Alors, Romé a 11 ans maintenant.
Oui.
Donc, le parcours, déjà, je le connaît, ça veut dire qu'il a été diagnostiqué dyslexique en CP.
Oui.
Donc ça fait déjà plusieurs années
Le suivez, que vous l'accompagnez ainsi.
Exactement, et qu'il est accompagné par des professionnels.
Alors vous allez nous parler de la manière dont la dyslexie peut se concevoir, se percevoir, se diagnostiquer. Aujourd'hui d'abord, dyslexique, qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Christelle Éloin?
Alors dyslexie, on peut déjà dire que ça veut dire lecture dysfonctionnelle. C'est une lecture qui ne fonctionne pas. Alors le mot dyslexie, c'est le mot qui est utilisé en fait dans le grand public et maintenant dans les classifications qui sont utilisées au niveau international, on va plutôt parler de troubles spécifiques des apprentissages avec difficulté en lecture parce que c'est associé à d'autres difficultés comme des troubles de l'orthographe, je pense que votre petit garçon, ça doit être le cas. Donc ce trouble spécifique des apprentissages fait partie du groupe qu'on appelle troubles neurodéveloppementaux, qui est une grande classe dans laquelle on va retrouver aussi d'autres types de handicaps comme le handicap intellectuel, les troubles du spectre autistique, mais avec une catégorie à part pour les troubles spécifiques des apprentissages, dont la dyslexie. Donc c'est une lecture qui dysfonctionne sur un mode spécifique et la principale caractéristique, c'est que les enfants ont du mal à identifier les mots, c'est-à-dire soit à les reconnaître, à reconnaître l'image globale du mot. Une fois que le mot est appris, normalement, quand on l'a vu plusieurs fois, on doit pouvoir, par auto-apprentissage, le retrouver dans notre petit dictionnaire interne, ou des difficultés à décoder les lettres et à les associer à des sons de la parole, à les fusionner pour faire un mot. Alors après, il va y avoir derrière forcément des difficultés de compréhension écrite qui peuvent survenir, des difficultés d'orthographe. Mais on dit que le dyslexique est en général un meilleur compreneur que décodeur, puisque souvent les enfants arrivent quand même à prendre des informations. Ce n'est pas un problème de traitement de l'information, de la compréhension, mais vraiment du décodage.
Oui, parce que là, on va en parler dans le détail, mais votre petit bout de chou, en l'occurrence, était un enfant qui n'avait pas de problème par ailleurs.
Il n'a pas de problème de compréhension. Il a une autre façon de voir les choses. On dit souvent qu'ils ont une façon de voir les choses en trois dimensions. Ça veut dire qu'il assimile les choses différemment. Son cerveau fonctionne différemment.
Mais vous avez compris qu'il y avait ce trouble dyslexique au CP lorsqu'il s'est agi d'apprendre justement à lire.
Oui. L'apprentissage a été difficile, l'écriture a été difficile, mais sa compréhension était tout à fait normale.
Oui.
Et aujourd'hui, quand on lui fait passer les tests, on se rend compte qu'il a une intelligence normal, voire plus que normal.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça, le drame, c'est qu'aujourd'hui, à l'école, il n'a pas les outils pour réussir comme les autres élèves. Et c'est ça qui finalement est dramatique, si vous voulez. Ça veut dire qu'à l'école, il n'a pas les moyens aujourd'hui pour avoir une scolarité normale.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a le sentiment justement que plus on en parle de la dyslexie, mieux vous êtes accompagné. Mais ce n'est pas toujours le cas, où il n'y a pas de recette toujours miracle, où le traitement se fait au long
cours. Non, il est accompagné à l'extérieur. Ça veut dire qu'il a une rééducation qui est mise en place avec des gens souvent extraordinaires,
notamment.
Comme les orthophonistes, les ergothérapeutes. Oui. Mais à l'école, au sein de l'école, souvent, il n'y a rien de mis en place pour eux. Les professeurs ne sont pas souvent qualifiés.
Ils n'ont pas forcément le temps d'un accompagnement précis,
temps, voilà,
bien sûr.
Même s'ils sont bienveillants, ils n'ont souvent pas le temps de s'occuper de ces élèves-là.
Alors, très intéressant que vous nous disiez tout ça, Sarah de Robien. Dans un instant, on va recevoir Christelle, qui est maman de 3 enfants atteints de dyslexie, qui le fut elle-même. Franck Ramus, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux travaux scientifiques consacrés à la dyslexie. Et nous sommes avec Marie-Christelle Éloin, qui nous éclaire, membre de la Fédération nationale des orthophonistes, orthophoniste évidemment elle-même. Vos appels au standard, nous avons déjà Isabelle qui nous rejoint. N'hésitez pas à faire comme elle, on vous répond jusqu'à 11h sur Europe 1
au 39-21. Le tour de la question sur la dyslexie à l'occasion de la semaine de sensibilisation à ce trouble du fonctionnement cérébral qui touche 8% des enfants. Wendy Bouchard.
Et on en parle avec nos invités, ces troubles avec le cerveau, le langage, l'écriture, évidemment très reliés. Marie-Christelle Éloin, vous êtes orthophoniste et membre de la Fédération nationale des orthophonistes. Et donc vous nous parlez de cette semaine de sensibilisation à la dyslexie. Sarah de Robien est maman d'un enfant dyslexique en 6e, Romé. Elle nous parlait des difficultés à l'école justement de son enfant, on va y revenir, mais Sarah soulignait quelque chose d'intéressant, c'est que ce n'est pas une question d'intelligence la dyslexie. Nous avons des enfants, souvent d'ailleurs à haut potentiel, qui sont dyslexiques, Marie-Christelle.
Alors effectivement, non, ce n'est pas une question d'intelligence, et d'ailleurs c'est un des critères diagnostiques différentiels avec un retard scolaire global. Donc pour qu'on puisse parler de dyslexie ou de troubles spécifiques des apprentissages, il faut que l'enfant justement ait une intelligence normale, n'ait pas de problème sensoriel, auditif ou visuel, n'ait pas de problème psychologique important de façon primaire, et puis qu'il maîtrise la langue dans laquelle il est enseigné, et qu'il n'y ait pas de carence en fait pédagogique.
Oui, on parle de troubles en tout cas, on ne parle pas de maladie.
Voilà, on parle de troubles. On parle de troubles spécifiques d'apprentissage. Voilà.
Oui.
C'est quand même une pathologie,
c'est
la dyslexie.
Pathologie. Mais, oui. Et qui se soigne
troubles. Qui se compense.
Qui ne se guérit pas.
On ne peut pas dire qu'on va guérir de la dyslexie. Il n'y a pas de médicaments ou de baguettes magiques. Ça se compense. Les enfants et puis les jeunes, les adultes, puisque ça perdure aussi à l'âge adulte, apprennent à gérer, à contrôler, à compenser, soit avec l'aide de la rééducation, mais aussi quand ils grandissent, et on en a parlé un petit peu avec la maman de Romé, parfois avec des outils aussi numériques de compensation,
oui, comme l'ordinateur.
Un ordinateur.
Ah oui, oui. Parce oui. que
ben, en fait, l'ordinateur leur permet, il y a des logiciels maintenant qui sont très efficaces, qui compensent aussi, ça veut dire avec l'ordinateur, ils peuvent écrire et ça corrige l'orthographe.
D'accord.
L'ordinateur les aide beaucoup à l'école.
Oui, elle déculpabilise aussi peut-être vis-à-vis de ces freins qu'ils ressentent, parce que votre enfant sent qu'il y a un petit trouble quand même aussi, Romé.
Ah ben, il est tout à fait au courant.
Oui.
Tout à fait au courant, bien sûr, il le sait. Ça,
c'est, ouais. Mais il l'a senti tôt, ou c'est lui qui, enfin, c'est vous oui. qui l'avez vu comme maman attentionnée, mais il l'a senti aussi.
Mais il a tout de suite su qu'il y avait un problème.
Ah ouais. Oui. Christelle Chantreau-Bébouche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également avec nous, scénariste, auteur du manuel de survie pour les parents et les profs pour mieux vivre au quotidien les troubles du langage et des apprentissages. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Sarah de Robien.
Bien sûr, je le connais.
Voilà,
oui.
Voilà. C'est
très,
devenu
très bon livre,
une référence, je crois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de guides justement pour aider les parents. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Parce que vous êtes maman de 3 enfants atteints de dyslexie et parce que vous l'avez été vous-même, que vous l'êtes, les dyslexiques, Christelle.
Et je suis toujours.
Voilà, ah oui, c'est ça. J'ai mis ça au passé.
Exactement. Alors, je ne suis pas dyslexique, je suis dysgraphique.
D'accord.
Et dysorthographique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, enfin, je vous écoutais, et finalement, ce que je réalise, c'est qu'en fait, tous les 10 ont un petit peu des choses communes, finalement. On est 10, mais avec une spécificité, mais on est quand même tous un peu concernés par les mêmes troubles.
Alors, dysgraphique et dysorthographique, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de d'écriture?
Ah ben oui, moi j'étais illisible, mon écriture était très lente, à l'école on m'arrachait mes pages, c'était catastrophique, pour ensuite devenir scénariste 20 ans plus tard.
Ça c'est magnifique, ça c'est la plus belle revanche, parce que vous avez eu un parcours scolaire qui a été pour cela très difficile justement.
Bah, comme la plupart des élèves, j'ai été orientée à 13 ans. Et à 14 ans, on m'a fait passer un CAP qui avait pas du tout, qui était pas du tout, qui ne correspondait pas du tout, en fait. Et par la suite, bon, bah, y a eu une exclusion sociale phénoménale.
Oui, parce que ce n'est pas que vous étiez mauvais élève, c'est que vous n'étiez pas justement avec ce trouble dans les codes du rythme, notamment de travail qu'on vous demandait à l'école.
Voilà, tout à fait. Puis j'y arrivais pas, j'étais dépassée. Il faut donner vraiment des outils aux enfants, sinon ils ne peuvent pas y arriver, c'est pas possible.
Et en l'occurrence, vous vous êtes penchée vraiment plus sur ce problème lorsque vous avez eu votre premier, puis votre deuxième, puis votre troisième enfant, et que vous avez constaté qu'eux-mêmes avaient cette pathologie, la dyslexie pour le coup.
Dyspraxique pour mon fils, oui. Et voilà, et dysgraphique pour les deux autres. Et avec toujours ces mêmes problèmes d'orientation. Donc, tout de suite, il met en place des ordinateurs à l'école. Ils vont passer, enfin, pour l'aîné, il a passé son bac avec un ordinateur, une secrétaire. Enfin, j'ai tout mis en place. Je me suis battue pendant toute sa scolarité, parce qu'aujourd'hui, il a 22 ans. Et il y a 10 ans, il n'y avait absolument rien, même 15 ans. Mm-hmm. Et pour les deux autres, c'est un petit peu mieux, mais ça reste toujours difficile à l'école pour les élèves. Pour oui. L'intégration, en fait, surtout. C'est l'intégration qui est très difficile.
Oui, et comment, justement, donner les codes. Alors, vous vous en donnez un petit peu des pistes avec votre manuel de survie pour les parents et les profs. Vous dites ça avec beaucoup d'humour. Hein.
Ouais, beaucoup d'humour, des bandes dessinées pour un petit peu, pour montrer aux parents. Enfin, voilà, que ce quotidien, on est tous concernés par ce quotidien, ces angoisses. La confrontation avec les enseignants, course pour trouver des créneaux le mercredi pour avoir des orthophonistes, des spécialistes, parce qu'il faut savoir qu'ils sont surbookés
oui. Et que c'est impossible. Et qu'il y a de grosses inégalités et de disparités selon les régions, évidemment, hein, et beaucoup de parents en souffrance. Ouais.
Voilà, ils ont le droit à avoir l'égalité des chances comme les autres, et complètement. Ça, c'est vraiment injuste.
Ouais. Christelle, on va revenir avec vous, avec Sarah, avec Marie-Christelle Éloin sur ce sujet-là. Voilà, je voulais juste vous entendre un petit peu avant la pause pour parler aussi de cet accompagnement nécessaire. Comment les orthophonistes accompagnent au mieux les parents lorsqu'on arrive à avoir des rendez-vous parce que vous êtes surbookés, comme on dit. À tout de suite pour parler de ce qui se passe dans notre cerveau, de ces troubles, de ces pathologies, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie notamment, et dyspraxie. Isabelle veut réagir sur le sujet au Standard Europe 1. À tout de suite avec Julie.
Europe 1.
Retour à notre sujet. Lundi, s'est ouverte la semaine de sensibilisation à la dyslexie qui met en lumière les pathologies du langage écrit, leur prévention et leur dépistage. Wendy Bouchard.
Tous les 10 dont nous parlions, les 10 qui sont atteints de dyssynchronie, de troubles du fonctionnement cérébral, la dysgraphie, la dysorthographie, la dyslexie bien sûr, la dyscalculie, la dyspraxie. Nathalie nous écrit de Caen, mon fils de 19 ans est dysphasique. Il a réussi à suivre ses études normalement, mais c'est un lourd handicap. Mais s'ils sont bien suivis par le bon orthophoniste, ils peuvent réussir autant que les autres. Alors on salue en effet votre travail, Marie-Christelle Éloin, vous qui sensibilisez cette semaine avec la Fédération nationale des orthophonistes à tous ces troubles et toutes ces pathologies. Sauf qu'on le disait avant la pause, il y a un problème d'accès aux soins terribles et des engorgements dans aujourd'hui les cabinets des orthophonistes.
Tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est problématique et qui est lourd pour les parents qui doivent parfois chercher longtemps avant d'avoir un rendez-vous, sachant que plus la prise en charge est précoce, meilleures aussi sont les chances d'aller mieux hein, et d'être aidé et puis de ne pas être tout seul non plus à porter ces difficultés. Il est vrai qu'actuellement, dans beaucoup de régions de France, hein, à part quelques-unes, on a une certaine embolisation en fait, des cabinets d'orthophonie avec des gens qui attendent longtemps pour avoir un rendez-vous. Alors ça, c'est relativement récent et c'est pas parce que c'est une épidémie de dyslexie ou tout d'un coup, hein, c'est que peut-être les troubles sont mieux repérés, mais les orthophonistes ne soignent pas non plus que des pathologies avec des enfants 10. Et on intervient sûr. Dans toute autre sorte de pathologie.
Est-ce que c'est génétique ? Parce que ça ne peut pas être une épidémie, mais c'est génétique la dyslexie ?
Alors, je vais en parler après. Est-ce que je peux juste finir sur l'accès aux soins ? Je voulais juste signaler quelques éléments parce que c'est vraiment important pour nous, orthophonistes. Les orthophonistes aussi, parfois, sont en souffrance de ne pas pouvoir répondre à la demande et de recevoir beaucoup d'appels et ne pas pouvoir répondre. Et c'est vrai que là, avec la FNO, on interpelle aussi le gouvernement parce que nous, on essaye, on est bien conscient du problème, on prend nos responsabilités par rapport à l'accueil des patients, mais on ne peut pas agir tout seul. Et là, on a un vrai souci. Du fait en particulier que toutes les structures salariées, à l'hôpital, dans les établissements, l'orthophonie est très très peu reconnue, très faible attractivité salariale, ce qui fait que les postes sont vacants. Par exemple, dans le secteur médico-social, qui s'occupe aussi des enfants avec des troubles 10, il y a environ 30% des postes qui sont vacants. Ce qui fait que tous ces postes qui ne sont pas remplis, eh bien, le report de la prise en charge de cas complexes, lourds, va sur le libéral, ce qui limite aussi la possibilité d'accès aux soins. Donc on a besoin d'être aidés par rapport à ça. Nous, on a fait des propositions au gouvernement au mois de mai, 20 propositions, qui malheureusement n'ont pas été entendues pour essayer d'améliorer l'accès aux soins.
Et pourtant, vous êtes saluée par tous ceux qui témoignent aujourd'hui. Donc Nathalie nous parlait de son fils dysphasique et Agnès, qui nous écrit de Nantes, nous dit merci d'évoquer donc cette dysphasie, trouble moins connu mais tout aussi handicapant qui affecte le langage. C'est ça la dysphasie, comment ça se concrétise ?
Tout à fait, la dysphasie, on peut la détecter d'ailleurs beaucoup plus tôt, puisque c'est un trouble sévère du langage. Alors maintenant, on parle aussi de trouble développemental du langage. Dysphasie, c'est un terme très franco-français. Avec un continuum, il peut y avoir des difficultés sévères ou non sévères, mais ça peut aller d'enfants qui ne peuvent pas faire de phrases, ou alors qui ont des gros troubles phonologiques, donc qui sont peu compréhensibles par leur entourage. Certains vont avoir des difficultés de compréhension, d'autres, ça va se limiter à l'expression. Et il y a souvent un retentissement sur l'apprentissage du langage écrit. Et à l'inverse, parfois, l'apprentissage du langage écrit aide aussi ces enfants en difficulté avec la langue orale à avancer.
Très bien. On a beaucoup de parents aussi qui témoignent de la manière dont leurs enfants ont fait acte de courage et s'en sont sortis. D'autres qui ont été mis dans des boîtes garage. Mathieu va témoigner dans un instant. Beaucoup de témoignages. Isabelle avec nous au 3921. Bonjour Isabelle.
Bonjour Wendy.
Bonjour de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Je ne parle plus français. Vous qui avez une fille
consultée.
Voilà, c'est ça.
Vous voulez un rendez-vous spécialiste ici.
À une fille atteinte de dyspraxie, Isabelle.
Oui, tout à fait. C'est notre deuxième fille. Nous avons trois enfants. Marie va avoir 18 ans dans quelques semaines.
Oui.
Et effectivement, lorsqu'elle avait 4 ans, à l'occasion d'une balade avec des amis, ce papa de petite jumelle du même âge que Marie a compris qu'en fait, Marie avait des difficultés à se mouvoir notamment. Et par rapport à ses filles, voilà, encore une fois, à l'occasion de cette balade. Il nous a alertés là-dessus et passé le choc, parce que c'est compliqué d'entendre que son enfant a un comportement différent, alors que par ailleurs, notre petite fille était adorable, souriante, avenante, et très dégourdie pour nous. On a réfléchi, on s'est aperçu qu'effectivement, Marie connaissait des difficultés depuis son très jeune âge. Elle a d'ailleurs marché assez tard, enfin voilà, ce genre de troubles. Mmh. On en a donc parlé à l'équipe enseignante. Nous habitons une petite commune avec une petite école maternelle. C'était assez facile. Elle était à l'époque en petite section de maternelle. Et passé la première surprise, on va dire, des enseignantes, elles ont creusé un peu. Et effectivement, elles nous ont dit que ça serait bien de faire tester Marie parce qu'il y avait quelque chose qui était un peu différent des autres. Et de là, on a attaqué le parcours qui, au départ, n'était pas un parcours du combattant, puisque nous avons eu affaire à une équipe médicale en termes de PMI et puis ensuite de prise en charge par différents organismes.
Oui, très accompagnés.
Au top niveau.
Oui.
On a été très accompagnés. Marie a été très accompagnée, mais nous aussi. Dès le départ, passer les premiers tests, et même à la fin des premiers tests, on nous a expliqué que Marie probablement était atteinte de dyspraxie. Alors, dyslexie, on connaissait. On a tous connu des gens qui nous parlaient dyslexie. À l'époque, on parle de 2005 environ. Nous, on a découvert ce terme, on s'est renseigné et on nous a tout de suite expliqué que ce n'était pas une maladie, qu'on n'allait pas lui donner un traitement ou un accompagnement qui allait la guérir. Elle ne guérirait pas, simplement les compensations qu'elle allait mettre en place, allait lui permettre d'avancer et de dépasser plus ou moins ses difficultés.
Je vous interromps un instant, Isabelle, juste parce que ça allait loin, parce que ce n'est pas du ressort de l'orthophoniste, la dyspraxie, mais comment ça se concrétise ?
Non, effectivement, les orthophonistes, la dyspraxie, ce n'est pas notre cœur de métier, puisque ce n'est pas relié au langage. Mmh. Donc, les soins sont souvent effectués par des psychomotriciens ou psychomotriciennes, des ergothérapeutes qui vont aider ces enfants-là. Alors, par contre, on a une comorbidité assez fréquente, ça veut dire que c'est pas rare du tout d'avoir des enfants qui sont à la fois dyslexiques et dyspraxiques, de la même façon qu'on aura aussi des enfants qui sont dyslexiques et dyscalculiques ou dyslexiques et dysgraphiques.
D'accord.
C'est des troubles qui peuvent souvent être associés. Donc évidemment, plus il y a de troubles associés, plus le parcours de soins est difficile pour l'enfant.
Isabelle, je vais vous laisser dans quelques secondes. Juste, vous pouvez nous dire comment votre fille a compensé justement cette dyspraxie ?
On s'est aperçu que Marie, elle a compensé d'abord toute seule, en oralisant énormément tout ce qu'elle faisait. Donc la dyspraxie, vous aurez l'occasion d'en reparler, j'imagine.
Absolument.
Mais c'est un problème d'automatisation de tous les gestes de la vie courante. et pour se servir ou pour boutonner son manteau, elle s'expliquait à voix haute ce qu'elle faisait. Elle continue à le faire dans le milieu scolaire, puisque c'est plus simple pour elle. Déjà, c'est plus simple quand elle entend les leçons. Si elle est absente, c'est compliqué de rattraper. Et quand elle révise, elle oralise.
Elle oralise.
Et en ça, effectivement, moi, je peux que me retrouver. Et j'ai effectivement, vous parlerez certainement avec votre invité de génétique et d'hérédité.
On y va juste après.
Moi,
oui.
ça m'a fait écho, effectivement, parce que quelque part, c'est confortable d'avoir quelque part des enfants comme ça. Et je dis ça avec l'humour et l'ironie qui me caractérise. Ça permet quelquefois de découvrir des choses sur soi-même. La seule chose que je voudrais relever avant de vous quitter, c'est que en fait, ces enfants dyslexiques, dyspraxiques et autres souffrent d'un gros défaut de confiance en eux.
Bien sûr.
Ce qui n'aide pas, en fait, dans leur prise en charge scolaire.
Merci,
pour
Isabelle.
Pour le reste, évidemment, il y a tous ces professionnels.
Merci beaucoup
d'avoir consacré du temps pour ça.
Merci. Très beau témoignage. Merci, Isabelle. Et bien voilà, la confiance, l'accompagnement et l'hérédité, c'était la question de Julie sur la génétique. On y vient juste après la pause. À tout de suite.
Nous parlons des troubles du langage et de l'apprentissage alors que la Fédération des orthophonistes lance cette semaine une action de prévention contre la dyslexie. Wendy Bouchard.
Absolument, et nous sommes avec Franck Ramus, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux travaux scientifiques consacrés à la dyslexie. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, vous qui êtes à l'écoute de ces échanges depuis tout à l'heure avec l'orthophoniste Marie-Christelle Éloin, avec des parents qui témoignent de difficultés aussi traversées par leurs enfants. Julie posait tout à l'heure la question de la génétique, de l'hérédité. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que les dysfonctionnements, la dyslexie notamment, est héréditaire, Franck Ramus ?
C'est en partie héréditaire. Hein. Vous voyez, on a un exemple. Vous avez Madame Chantreau qui disait être elle-même dyslexique et avoir 3 enfants dyslexiques. C'est un cas de figure assez courant. À peu près 1 cas sur 2 de dyslexie qu'on rencontre a déjà des antécédents familiaux, avec souvent des patterns de transmission qui semblent assez clairs. Et on commence à avoir, grâce aux travaux en génétique moléculaire, une compréhension qui commence à être assez fine des facteurs génétiques qui sont impliqués dans la dyslexie et dans les autres troubles.
On va entendre Philippe dans un instant, mais Sarah Dorobien, c'est votre cas, votre enfant.
Oui, tout à fait. Mon mari est dyslexique, voilà. Très dyslexique. Et à l'époque, ce n'était pas du tout reconnu. Donc lui, il a beaucoup souffert. Et on lui disait qu'il était nul en fait. Il a fait une dizaine d'écoles, donc c'est terrible. Lui, il a beaucoup souffert.
Sur le parcours,
c'est pour ça notamment que je me bats pour mon fils, pour pas qu'il vive la même chose.
Et que vous vous battez au quotidien avec des allers-retours incessants et des organisations complexes aussi pour lui faciliter la tâche. Mais on peut être en effet Franck Ramus prix Nobel et dyslexique. Par exemple,
potentiellement. Rien ne l'interdit en tout cas.
Oui, non, mais ça veut dire que pour ce qu'on disait au départ, ça n'a aucun lien avec l'intelligence ou le développement de l'intelligence.
Non, ça n'est pas contradictoire avec l'intelligence. En tout cas, c'est un trouble spécifique qui affecte un secteur particulier du fonctionnement du cerveau, mais pas tous les secteurs.
Ça veut dire quand même que le cerveau des personnes dyslexiques en particulier est différent des autres.
Oui, nécessairement. Vous savez, apprendre à lire comme apprendre à compter, apprendre à écrire, tout ça, c'est fait par le cerveau. Donc, si un enfant a du mal à apprendre, c'est forcément parce que c'est dans son cerveau qu'il y a quelque chose qui est différent. Après, qu'est-ce qui est différent exactement ? Là, c'est l'objet de toutes les recherches qu'on fait en neurosciences, des troubles des apprentissages. Et on commence à acquérir un certain nombre de résultats sur, effectivement, certaines différences chez les enfants dyslexiques, des trajectoires de développement du cerveau qui sont légèrement différentes. Si on regarde à l'œil nu, le cerveau des personnes dyslexiques est parfaitement normal, on ne voit aucune différence en vérité. Mais si on fait des analyses beaucoup plus poussées, si on analyse par exemple des différences entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, on trouve par exemple des inversions de certaines asymétries chez les enfants dyslexiques. Mm-hmm. Donc des différences cérébrales, on va dire, assez subtiles, et il y en a de multiples, et chacune constitue un petit facteur de risque qui augmente la probabilité de devenir dyslexique.
On parlait tout à l'heure de diagnostic, de dépistage aussi. Il y a des tests qui devraient être généralisés pour les enfants dès 3 ans, dès la maternelle. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose et qu'on pourrait en effet dépister ces troubles si tôt ?
Si on fait des tests à la maternelle, on ne va jamais diagnostiquer la dyslexie avant l'apprentissage de la lecture, puisque le symptôme, c'est la difficulté d'apprentissage de la lecture.
Pour la dyspraxie, peut-être, par exemple.
Pour la dyspraxie, éventuellement, oui. Mmh. Ce qu'on peut dépister dès la maternelle, ce sont des facteurs qui sont précurseurs de la dyslexie, notamment des difficultés en langage oral. Donc typiquement, les enfants qui ont du mal avec la phonologie, hein, c'est-à-dire les sons de la parole, ceux qui ont du mal à faire des rimes ou à entendre les rimes, ceux qui ont du mal à retenir les comptines, typiquement, ils sont à risque de devenir dyslexiques. Mmh. Ceux qui ont un faible vocabulaire aussi, ceux qui ont un retard de langage. Voilà, toutes les difficultés en langage oral constituent des facteurs de risque de dyslexie. Évidemment, ça ne prédétermine pas l'enfant à devenir dyslexique, mais ce sont des facteurs qui doivent appeler à la vigilance.
C'est ça.
Et notamment qui doivent inviter les enseignants qui remarquent ces difficultés en langage oral à étayer ces compétences en langage oral. Hein. C'est au programme de la maternelle de développer le vocabulaire des enfants, de développer leur conscience phonologique. Et donc effectivement, les enseignants doivent être vigilants là-dessus. Et puis, dans les cas les plus graves, ça peut être des orthophonistes qui prennent le relais, bien sûr.
Oui, vigilance et surveillance, en tout cas, Julie.
Oui, le bégaiement, ça fait partie des mêmes troubles du cerveau?
Non, pas vraiment.
Pas du tout? Non.
Pancramus?
Non, oui, je dirais pareil, c'est un petit peu à part, le bégaiement. Mmh. Et bon, je ne saurais pas en dire grand-chose. Enfin, disons, ça fait aussi intervenir des régions du cerveau qui sont impliquées dans le langage, mais ce ne sont pas les mêmes que dans la dyslexie et la dysphasie.
En tout cas, les orthophonistes traitent évidemment ce bégaiement.
Oui, bien sûr, les orthophonistes s'occupent du bégaiement, mais on n'a pas les mêmes substrats sur le plan cognitif. Enfin, le bégaiement, c'est aussi un trouble dans la communication. Enfin, c'est vraiment
quelque
chose d'appart. Qui se guérit,
pour le coup, ou qui se compense.
Moi, si je peux juste intervenir, les professeurs, ou en tout cas les institutrices, souvent ne sont pas formées et... c'est très compliqué de demander à une institutrice en maternelle, en tout cas, de voir si un enfant est dyslexique ou non. Nous, ça nous a pris 3 ans avant que notre fils soit diagnostiqué dyslexique.
Ah oui, 3 ans quand même.
Oui.
Donc vous avez commencé à voir ces symptômes au CP.
On a vu qu'il y avait un problème, oui. Et avant que le diagnostic soit posé, ça a pris 3 ans.
Donc c'est très long. Le diagnostic peut être très long, Marie-Christine, aller loin.
Ça dépend à quel âge l'enfant consulte. Hein. C'est vrai qu'un enfant qui consulte au début du cours préparatoire, on ne va pas pouvoir le diagnostiquer d'emblée dyslexique. Mmh. Alors d'abord, il y a quand même des critères. Hein, et on attend, et ça c'est dans la classification internationale, en fait, un enfant, il faut qu'il ait déjà eu des mesures ciblées sur le plan pédagogique, une aide pendant au moins 6 mois et que ça ne fonctionne pas pour qu'on puisse se dire c'est peut-être une dyslexie. Maintenant, on peut quand même repérer en amont, comme le disait Franck Ramus, d'autres troubles, des difficultés sur le plan phonologique, au niveau du traitement des sons, des difficultés de découpage, par exemple, des mots en syllabes ou des difficultés de langage. Et là, on pourra intervenir. Mais on ne peut pas poser un diagnostic de dyslexie dès le premier trimestre.
C'est un long chemin.
C'est quand même long, le chemin là, que vous avez eu. Ça peut quand même être plus rapide. Et il y a des diagnostics qui sont quand même posés bien plus tôt que cela. Et c'est aussi de la responsabilité là, des orthophonistes que de poser ce diagnostic orthophonique dans le cadre aussi d'un diagnostic pluridisciplinaire quand c'est nécessaire, pour les cas les plus complexes, quand il y a doute. De toute façon, en amont, le médecin, votre médecin traitant ou le pédiatre doit avoir repéré, ou en tout cas avant d'adresser chez un orthophoniste, repérer s'il n'y a pas de difficulté sur le plan sensoriel, au niveau de l'audition, de la vue, de façon plus globale.
Mais ces troubles, en tout cas, sont reconnus comme handicap, vous allez nous en parler aujourd'hui, qui sont quand même des pathologies un peu handicapantes, mais qu'on peut compenser, et tous les témoignages que nous recevons le prouvent, et vous avez des parents extrêmement dévoué. Christelle Chantreau-Bébouche va réagir dans un instant, ainsi que Philippe, qui nous appelle de Norrois-le-Venert, qui est dyslexique, ainsi que ses 2 enfants, puisque nous parlions d'hérédité. A tout de suite sur Europe 1.
Le tour de la question, la suite jusqu'à 11h. Nous parlons des troubles du langage et de l'apprentissage. Dyslexie, dyspraxie, dysphasie. Que se passe-t-il dans notre cerveau qui explique ces dysfonctionnements avec tous ces mots en 10?
Oui, nous sommes en pleine semaine de sensibilisation et merci à vous tous de témoigner, à Marie-Christelle Éloin, orthophoniste, de nous dire comment on peut accompagner ces troubles, ces pathologies qui sont des handicaps lorsque l'on parle des enfants à l'école qui se sentent différents, qui se sentent rejetés. Et vous nous disiez l'engorgement aussi, c'est un métier magnifique, orthophoniste, sauf qu'il y a un numerus clausus qui crée aussi des engorgements avec 18 mois, voire 2 ans d'attente aujourd'hui. Lorsqu'on a des parents en souffrance comme vous, Sarah de Robert, des enfants surtout, c'est terrible. Et là, on est dans le parcours du combattant pour le coup.
Oui, tout à fait. Oui. Nous, c'est vrai qu'on a choisi une méthode particulière. On voulait vraiment cette méthode, parce que j'ai une amie qui avait eu des très bons résultats avec sa fille, qui s'appelle la méthode Padovan. Et on a attendu, 2 ans pour avoir une place.
Un rendez-vous
avec Sophie Servant, qui est à Versailles. Et c'est vrai qu'on est très heureux aujourd'hui d'avoir attendu 2 ans, parce qu'on a des résultats qui sont quand même assez extraordinaires.
Oui, mais en attendant, voilà, il a fallu
mais en
assumer.
En attendant, oui, c'était 2 ans.
Christelle Chantreau-Bébouche, vous êtes toujours avec nous. Vous avez publié, et on le recommande d'ailleurs aux parents qui nous écoutent, ce manuel de survie pour les parents et les profs pour mieux vivre au quotidien les troubles du langage et les apprentissages aux éditions Josette Lyon. Vous vous retrouvez dans tout ce qui a été dit là depuis tout à l'heure, à la fois sur la gestion de ces troubles, sur la difficulté pour les parents de diagnostiquer, de dépister, de faire suivre ensuite.
Je me retrouve parce que c'est mon parcours quotidien aussi, c'est ce que je mène moi pour mes enfants, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre.
Ouais.
Voilà, je parle par exemple, j'aide les parents pour faire un dossier à la MDPH, parce qu'il faut savoir par exemple pour faire un dossier à la MDPH et avoir une reconnaissance.
Alors la MDPH, qu'est-ce que c'est ?
La maison du handicap.
Mmh, parce que c'est reconnu comme handicap aujourd'hui, hein.
Alors voilà, comme ce sont des handicaps invisibles, il y a quand même beaucoup de bilans à faire pour avoir une reconnaissance, et c'est très difficile. Il faut que le bilan, enfin que le dossier soit vraiment bien bien fait. Et pour un parent qui ne connaît absolument rien, c'est vraiment trop compliqué.
Être reconnu comme handicap, qu'est-ce que ça vous permet ? Qu'est-ce que ça vous offre comme accompagnement ?
Alors déjà d'avoir un. Alors maintenant, il existe beaucoup plus de mise en place. Il y a des PAP. Enfin bon, il y a plein de choses mises en place à l'école.
Les PAP, c'est quoi, pardon, parce que vous
alors, voilà, il y a des plans en fait d'accompagnement qui
D'accord.
sont faits pour les élèves aujourd'hui, mais il y a des critères vraiment, et c'est pareil, il faut que les enseignants les connaissent, tout le monde ne connaît pas les plans, enfin bon, ça commence à vraiment rentrer un petit peu dans les écoles. De toute façon, c'est obligatoire maintenant d'accompagner un enfant avec un plan.
D'accord.
Mais par exemple, le PPS, qui est celui pour les enfants avec un handicap, notamment les troubles sévères, parce qu'il y a des troubles plus ou moins sévères, donc là aussi, c'est vraiment une difficulté pour eux, et aussi pour les parents, parce qu'il faut faire reconnaître les troubles, et si le dossier MDPH ne passe pas, ça donne moins d'aide, en fait, moins d'égalité des chances pour les enfants.
Ouais.
Parce qu'ils ne sont pas reconnus pour leurs troubles.
Ouais, c'est compliqué ce que vous avez à vivre au quotidien,
alors,
Sarah Drobien.
Moi, je peux juste témoigner.
Bien sûr.
Nous,
pour votre fils qui est en
6e. Dans une école donc normale,
oui.
Donc dans le privé à Boulogne. Mm-hmm. On a signé un PAP,
un plan d'accompagnement. Oui.
Il n'y a toujours rien mis en place pour lui. Hein. Donc c'est très compliqué.
Ouais.
De faire que les profs en fait, même si on a un PAP qui a été signé.
Oui, pour l'instant, il n'y a pas de suivi.
Non, il n'y a pas de suivi.
Il est en quelle classe ?
En 6e.
Il est en quelle classe ? Il est en 6e et depuis septembre,
et
rien n'a bougé
PAP,
pour lui.
Un PAP, juste pour vous dire, pour vous expliquer, par exemple, c'est des aménagements, c'est des contrôles aménagés, donc allégés, c'est des dictées à trous, c'est des choses comme ça.
Et pour l'instant, il fait comme les autres et il fait plus ou moins comme il peut, le pauvre.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il souffre.
Ouais.
Alors, je crois que ça
Marie
dépend
Christelle.
Quand même des écoles. Hein. C'est
oui,
vrai que
exactement,
dans, certains, écoles, dans
oui.
certaines écoles, au collège, c'est plus facilement mis en place. Oui. Je crois que vous me disiez tout à l'heure qu'à l'école primaire, c'était un peu plus facile
bien
parce
sûr.
Que l'enseignant connaissait bien l'enfant.
C'est ça.
À noter, on sent aussi quand même des choses qui bougent. Par exemple, lundi dernier, là, à la journée, au colloque qui a ouvert cette semaine, nous avions avec nous le docteur Moltretsch, qui est la conseillère technique médecin de l'éducation nationale, en fait, hein, et qui a parlé là, d'un partenariat, par exemple, qui se met en place là pour essayer de faciliter la communication entre les orthophonistes, les parents et l'école pour aider un petit peu à ce que ça fonctionne mieux. Donc, au sein de l'éducation nationale, je pense qu'il y a aussi des personnes qui bougent. Mais c'est vrai
heureusement.
Que, voilà. Mais c'est vrai que c'est lourd et que c'est pas toujours fait partout et que c'est compliqué parfois pour les enseignants.
Et les chiffres parlent, 8% des élèves français plus ou moins atteints de ces troubles cognitifs et de ces dyslexies notamment. Je vais donner la parole à Philippe qui nous attend depuis un certain temps. Mais rassurez-vous, parce qu'on a des petits messages sur Twitter qui nous disent « Vous êtes sympa, vous appelez les auditeurs, c'est eux qui vous enchérissent ». Non, non, parce qu'évidemment, c'est nous qui les appelons. Hein, donc vous nous appelez, on vous rappelle, on le redit. Voilà. Chers amis, merci de votre patience, on arrive tout de suite.
Le tour de la question, les dernières minutes de l'émission sur la dyslexie et l'accompagnement de ces troubles quand on est parent, l'accompagnement aussi à l'école. On en parle avec Wendy Bouchard.
Avec nos invités, avec Philippe qui nous attend depuis quelques minutes maintenant à Neuroy-le-Veneur au 39-21. Bonjour Philippe.
Bonjour Wendy.
Merci de votre
patience. Je vous remercie de me donner la parole.
Eh bien, on vous écoute parce que votre cas est intéressant et partagé hein, vraiment là, depuis 10 heures. Vous êtes dyslexique vous-même. Et vos deux enfants sont dyslexiques, Philippe. Voilà, on revient à l'hérédité que nous avions mise en avant tout à l'heure.
Tout à fait. Tout à fait, Wendy. Donc, parcours scolaire très difficile pour moi avec, bien sûr, une scolarité mauvaise. Et puis, je suis autodidacte dans tout ce que j'ai fait.
Oui.
Donc, voilà. Et puis, mes deux enfants, je pensais que c'était uniquement que moi. Mes deux enfants ont été détectés dyslexiques, Océane et Florent. Donc, c'est quelque chose
qui m'a
touché
énormément. À quel âge, Philippe, à l'entrée en CP?
Oui, en CP, déjà, ils ont été détectés dyslexiques. Ça me touche encore maintenant d'avoir ça, mais c'est très lourd à porter d'avoir des enfants parce que c'est le parcours du combattant.
Oui.
J'ai entendu vos autres auditeurs qui parlaient tout à l'heure au niveau du scolaire, parce que moi, mes enfants sont partis quand même il y a 8 ans quand même d'école.
Oui.
Ils ont fait des métiers, ils ont réussi dans leur vie professionnelle, mais ça a été très dur parce qu'au niveau scolaire, il y a 8 ans encore, les profs me disaient que mes enfants ne travaillaient pas, les devoirs, l'étude et tout ça, et c'était un mur carrément qu'on avait en face de nous.
Ça, c'est terrible. Donc, il n'y avait pas de sensibilisation pour le coup à l'école, du tout, hein, sur ce sujet-là.
Non.
On vous étire.
J'ai lu beaucoup, je me suis renseigné, j'ai été à des réunions pour voir ce qu'on pouvait faire. On a essayé le maximum de faire ce qu'il fallait pour nos enfants, pour améliorer leur quotidien, qui était très lourd. Et donc, c'est quelque chose de très, très dur à vivre à l'instant T, parce que notre vie professionnelle, tout est à écrire, tout est à marquer. Et donc, à 10, il faut savoir qu'un 10 écrit mal, qu'on le veuille ou non. Bon, maintenant, bien sûr, il y a des ordinateurs, il y a des aides qui sont là. Et j'entendais aussi l'autre auditrice qui disait que la personne qui faisait partie de la MDPH, qui a demandé des dossiers, moi, j'avais des dossiers pour les deux enfants. Mes enfants ne voulaient pas qu'on les considère comme handicapés. Ils me disaient, je suis, papa, je suis normaux. On est normaux.
Et oui, ils ne voulaient pas être mis de côté non plus, bien sûr. Ouais. C'est difficile. J'aurais que vous réagissiez, Marie-Christelle est loin à ce témoignage émouvant de Philippe qui a tout fait, comme les parents qui se sont succédés ici au micro pour ses enfants. Et ils ont réussi, mais le manque de sensibilisation aussi du corps enseignant, alors on ne peut pas les accabler parce qu'ils ont 1000 choses à faire, mais c'est aussi pour eux cette semaine de sensibilisation à la dyslexie que vous lancez.
Oui, bien sûr, et nous on a aussi des propositions pour peut-être parfois participer aussi à la formation des enseignants.
Peut-être apprendre aussi, à reconnaître, à dépister.
Voilà, apprendre à reconnaître, connaître les signes de prévention, peut-être aussi aider à la formation des AVS, les auxiliaires de vie scolaire qui interviennent auprès de certains enfants.
Ils ne sont pas assez nombreux.
Alors là, par exemple, on va mettre en place là, dans les mois qui viennent là, en partenariat avec l'assurance maladie et l'éducation nationale justement un plan de dépistage et de prévention alors c'est en cours pour le moment, les groupes de travail ont démarré là récemment, avec justement du dépistage systématique avec un outil qui s'appelle le DPL3 qui est pour les enfants de 3 ans, donc ça dépiste les troubles du langage, pas du tout la dyslexie, mais ça va se passer, les orthophonistes seront amenés à former les enseignants, et c'est les enseignants qui feront le dépistage. Nous, les orthophonistes ne peuvent pas aller dans les écoles, on est déjà surchargés. Mais pour avoir une sensibilisation là, précoce chez des petits-enfants, ça existe déjà dans les Hauts-de-France, enfin dans le Nord-Pas-de-Calais depuis une quinzaine d'années, avec plus de 11 000 enfants quand même qui ont été vus et dépistés, avec de bons retours en fait.
Et pour redonner de la confiance aux enfants, je remercie Philippe pour son témoignage et je termine avec vous, Sarah de Robien, redonner de la confiance aux enfants parce que le petit Romé, là, qui est en 6e, c'est ce qu'il lui faut aussi. Pas se considérer comme différent, il sait qu'il a un handicap, il sait qu'il doit gérer ça, mais ça ne le rend pas moins intelligent.
Non, pas du tout. Alors, moi, j'ai juste constaté une chose, c'est que quand les professeurs sont bienveillants, il est moins dyslexique. Et quand les professeurs le laissent de côté, sa dyslexie repart, mais alors vraiment très, très sévèrement.
Ouais.
Donc, comme quoi la bienveillance est très importante avec les enfants dyslexiques.
Voilà, d'où la nécessité aussi dans ces rencontres parents-professeurs de parler aussi au corps enseignant et d'encourager ces enfants et d'encourager le gouvernement à entendre vos requêtes pour la Fédération nationale des orthophonistes, changer ce numerus clausus qui fait que, c'est un métier qui attire, mais malheureusement pas assez de place et pas assez de professionnels aujourd'hui sur toute la France. Merci à vous, mesdames. Merci à tous vos témoignages. C'était très nombreux au 39-21 aujourd'hui. Merci pour votre patience et à demain, ma chère Julie.
À demain, c'était Wendy Bouchard.